me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 10. Aujourd'hui, dans les remarquables et pour cet épisode exceptionnel puisque c'est le dixième, mon invité est un homme qui cisèle les mots, parsème ses phrases de silence et fait dire aussi à ce même silence bien des mots, M-A-U-X. C'est un poète qui travaille ses recueils comme un artisan. Il sculpte des sentiments aussi aquatiques que rocheux et nombre de ses textes sont teintés d'une rare sensualité. S'il ne m'a pas appris à écrire, j'ai découvert avec lui qu'une histoire tenait dans un seul mot. Et en ce sens, je lui dois beaucoup à lui qui dit écrire parce qu'il a une dette. Émeric de Monténard, bienvenue.
Merci, bonjour Lionel.
Ça te va comme présentation ?
J'ai bien aimé la dette et les mots.
Et alors nous, on s'est rencontrés il y a de ça bientôt 17 ans. On avait la même maison d'édition qui s'appelait Éclat d'encre. Et l'éditrice Sandrine Fay, que je salue ici. T'étais venu voir une de mes pièces qui s'appelait Secours Instant de Bonheur. Et moi, j'ai découvert tes textes. Et j'ai découvert qu'on avait en commun la Manche. Enfin, quand je dis la Manche, je parle du département. la Normandie, puisque toi, t'as une maison là-bas. Et très vite, on s'est liés d'amitié. Et moi, pour moi, t'es devenu comme une espèce de mentor d'écriture parce que tu m'as apprise, comme je le disais dans l'introduction, à ciseler mes mots. Tu es un poète, voilà, depuis plusieurs années. Tu as édité, alors je sais plus combien de bouquins t'as édité parce que t'en as qui ont été aussi réédités. En tout, il y en a combien ?
12, 13 peut-être. Je sais pas exactement. J'ai pas, parce que oui, il y a eu les rééditions. Donc
d'accord. Ouais, c'est ça. Il y a même eu aussi des petits fascicules. Parfois, il y avait du clown, par exemple.
Alors, c'était un livre d'artiste.
Oui voilà, c'est ça. C'est un livre d'artiste.
Le poème existe dans un des recueils, vit dans un des recueils. On avait fait un livre d'artiste avec mon beau-frère à l'époque.
D'accord.
Et que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Flanqué d'un sourire.
Qu'est-ce que tu, alors donc, il y a une tradition, une des premières traditions dans le podcast. Alors là, on n'est pas par Skype, on se voit en direct. Je suis un petit peu emmerdé parce qu'en principe, je demande virtuellement qu'est-ce que tu veux boire. Et pour moi, c'est facile parce que virtuellement, j'ai rien à servir. Sauf que là, on est là face à l'autre. Je peux t'offrir un petit peu de muguet avec de l'eau de muguet. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir à boire dans l'absolu?
Mais j'y ai pensé à cette question en écoutant les autres podcasts. Et c'est vrai que je pourrais dire du thé,
Ouais, comme tous les rockers que j'ai eu.
Il n'y a rien de personnel.
Ouais.
Et j'avais envie de dire de ginger wine, pas parce que c'est complètement original, parce que c'est difficile à trouver, mais parce que c'est lié à la maison, au lieu dans lequel j'étais pendant très longtemps. C'est une maison qui appartenait à un oncle, et il y avait toujours le ginger wine dans le bar, et je touchais pas, je savais pas ce que c'était, jusqu'au jour où j'ai eu le malheur de goûter. C'était délicieux, et c'est un truc qu'on trouve pas en France, donc il l'a ramené de temps en temps. Il ramenait des bouteilles de temps en temps, puis ensuite j'ai perdu ça. Lui est parti de la maison. J'ai perdu la trace du ginger wine et j'en ai retrouvé cette année quand Paul,
ah oui.
Paul m'a a trouvé.
Paul, un de tes fils. Et est-ce que quand tu écris, justement, tu bois, est-ce que tu as besoin de te sentir comme certaines personnes, comme certains auteurs, être excité soit par quelque chose qui te rend un petit peu nerveux, soit d'être un petit peu plus détendu avec un verre de vin, avec je ne sais quoi?
Mais je sais que l'alcool, ça fait des ravages, des pas bons, c'est jamais bon. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je me dis « putain, c'est vachement bien, ça dépote ». Et le matin, quand je regarde ce que j'écris, non, je sais que c'est pas bon, l'alcool.
Alors, pour commencer, j'avais des citations. Qui a dit « à la lumière de la lune, quelle mesure demander ?» Allez, j'en ai une deuxième. « Il faudrait accepter, pas la mort, mais la mienne. »
Ah, c'est joli ça, je connais pas, j'ai aucune idée.
Eh ben, c'est Eugène Guivic.
Ah oui.
Ouais. Alors Eugène Guivic.
C'est marrant parce que j'y ai pensé quand tu m'as dit, je me dis tiens, c'est chouette, il va me proposer du Guivic ou Perrin ou Jacob.
On va en parler.
Et oui, j'imagine. Et j'ai pas pensé à Guivic. Tiens. Alors, j'ai pas reconnu, j'y ai pensé, mais j'ai pas reconnu.
Alors moi j'ai pris des notes. Hein. Eugène Guivic, on va en parler pourquoi. C'était un poète français de 1907 à 1997, qui est mort en 1997. Alors, ce que j'ai trouvé comme petite accroche, c'est le créateur d'un lyrisme fondé sur une observation minutieuse de la réalité et destiné à rendre toute chose palpable. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'on pouvait aussi te donner à toi, en fait.
Oui, peut-être aussi pour ça qu'on s'est très bien entendu au départ. Alors c'est vrai que j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière et de me dire et de rappeler le et de revenir sur dans mes pas et de me rappeler mon professeur de français qui était un type assez extraordinaire quand j'étais en pension et qui nous parlait pas d'histoire de la littérature ou de ne faisait pas la bibliographie des poètes, il nous faisait juste lire des textes. Et on lisait en silence, enfin il lisait, la classe était en silence pendant qu'il lisait ou qu'il nous faisait lire le texte. Et de temps en temps, il levait un doigt, juste nous faire goûter aux mots. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec lui, jusqu'au jour où j'ai croisé un livre qu'il avait sorti de sa bibliothèque, un petit texte de Max Jacob. Et je me suis dit, tiens, un jour, quand je serai grand, j'aimerais écrire pour écrire des choses aussi belles que ça. Et puis bon, j'ai creusé, j'ai fait mon petit chemin, j'ai croisé des poètes dans des clubs de poésie, des choses comme ça. Et puis j'ai écrit un texte sur Guy Vic et je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer. Et je lui ai envoyé tout mon texte avec mon choix de poème pour illustrer ma présentation. Et 3 jours après, il m'a téléphoné. Et il m'a dit, oui, bonjour, c'est Guy Vic. Je ne croyais pas. Enfin, je pensais que c'était un copain qui se foutait de moi parce que je l'avais dit à 2-3 personnes.
Ouais.
Et puis, on s'est rencontrés. J'ai envoyé d'autres. On s'est rencontrés. Ben, j'ai envie de dire plein de trucs en même temps. Je suis allé le voir. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais au chômage. Donc, j'étais très disponible. Donc, je l'ai vu presque toutes les semaines régulièrement.
C'était à Paris ?
Il habitait Paris, oui,
d'accord.
Rue Claude Bernard. Et c'était extraordinaire. Je t'avais raconté à l'époque, il y avait cette histoire d'arbres. Avant même de dire quoi que ce soit, enfin, sa femme nous ouvrait, Lucie, qui est toujours là, et que je salue si elle nous entend. Sa femme nous ouvrait, elle me conduisait dans son bureau. Il était derrière son bureau, et avant de dire quoi que ce soit, on regardait par la fenêtre, il y avait un acacia qui était là dans la cour. Et on était au 3e étage, donc c'était la bonne hauteur par rapport à cet arbre qui était assez beau. Et on se voyait pourtant toutes les semaines, et toutes les semaines, on commençait par discuter de l'arbre. Les choses qui avaient bougé, les choses qui avaient changé, etc. C'était une sorte de rituel qui était assez... à la fois qui me déstabilisait un petit peu, parce que moi j'étais un petit bonhomme qui venait voir un monstre, de ce type-là.
C'était un maître.
Oui, mais... Un monstre sacré, c'était un des grands poètes de la deuxième moitié du XXe siècle, en tout cas pour moi. Et c'était une façon aussi de remettre les choses simplement. Puis quelquefois, tu sais, il sortait sous ses feuilles de papier des petits billets en papier où il avait écrit une petite phrase. Et c'était pas du tout des haïkus, c'était une petite phrase, une réflexion qui s'était faite sur les fleurs, sur tout et n'importe quoi. Et de temps en temps, il y avait des trucs assez érotiques. Et il me les lisait. Et il attendait de voir ce qui se passait. J'aimais bien. Alors ça n'a rien à voir avec ce que tu disais sur la sensualité. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup travaillé, beaucoup aimé tout ce qui était de l'ordre du sens, des sens, à la fois de la musique, du toucher, de la façon de travailler mes mots, on a souvent parlé, j'ai l'impression de travailler un peu plus comme un sculpteur que comme un musicien ou quelque chose d'autre. J'ai vraiment l'impression de pétrir mes mots, de les gratter. Donc ça me touche que tu vois cette proximité. Moi, bien sûr, moi je la sens, cette proximité avec lui. Je sais que lui, il met beaucoup mes textes. Mais bon, lui, c'est Guy Vic, moi, je suis...
Non, mais moi je pense à deux choses, parce que par rapport à cette histoire aussi de Guy Vic que tu m'avais raconté à l'époque et à laquelle je prends toujours autant de plaisir à l'entendre, cette histoire d'arbre, c'est drôle parce que c'est une histoire qui a directement impacté mon écriture pour ma pièce Comme un arbre penché, puisque les deux personnages parlent d'un arbre, enfin un des deux personnages dans ma pièce, puisque Francis Perrin a joué, il parle d'un arbre dehors. Et en fait, cet arbre n'existe jamais. Mais je sais que pour moi, c'était... Et en plus, cette pièce était dédiée. Mais il y a souvent les arbres, mais on va sûrement en revenir. Mais quand en revenant tout petit peu en arrière, par rapport à cette histoire aussi de professeur, alors je me souviens que tu m'avais raconté cette espèce de doigt en l'air et qu'il était penché sur une chaise.
C'était un vieux monsieur qui avait 75 ans, qui était mince, comme, une trique sec comme une trique, qui était gentil comme tout, qui nous faisait un peu peur. Nous, on avait des jeunes adolescents. Et ce monsieur qui arrivait, t'as l'impression que si on parlait un peu trop fort, il allait se casser la gueule. Il montait, c'était une vieille école, donc t'avais une petite estrade pour le professeur. Il montait sur son estrade, il s'installait à son bureau, il prenait un livre et il se mettait sur les pieds arrière de sa chaise. Il se balançait doucement pendant qu'il lisait. Ouais. Il lisait très très bien, mais par moment il nous demandait à l'un ou l'autre de prendre le relais et de lire. Mais il restait toujours sur ses pieds arrière. C'était marrant parce que il tournait ses pages et quand il levait, alors il tenait le livre, il était dans un certain équilibre, qui était bien. Et quand il levait le doigt. Ouais. Pour nous montrer, nous faire sentir la relative qui était là, ou enfin, la proposition relative, ou tel mot, ou tel assemblage. Le fait de lever le doigt un peu brusquement, parce qu'il voulait juste nous montrer le truc, ça devait le déséquilibrer. Et c'était très drôle, parce qu'il partait en arrière. Nous, on était comme des cons à 15 ans ou 16 ans, on disait, il va partir, on n'avait pas envie, mais bon, on avait envie de voir la scène quand même. Et il se rattrapait toujours. Et personne ne mouffetait, c'est-à-dire qu'on voyait dans ce sourire qu'il avait compris, qu'il avait compris, il y avait un petit sourire qui était...
Il y avait un jeu, presque.
Il y avait un jeu, tout à fait. Et il repartait comme si de rien n'était. Et c'était, bon, je ne dis pas le boulot qu'il a fallu abattre pour passer notre bac, parce que ce n'est pas avec la lecture des bouquins que ça aide pas tout, mais bon, c'était un beau souvenir.
Mais c'est autre chose, peut-être que lui aussi, il était... Comme disait Alexandre Sartorin-Neil, il était davantage soucieux d'éduquer plutôt qu'instruire, non ?
Probablement, oui, parce que je pense que tu as raison, c'est une belle formule. Il nous permettait de nous approprier tous ces mots. Ces textes, c'était pas, on n'apprenait rien sur Chateaubriand ou Stendhal. On apprenait des choses sur l'écriture des mots. Et quand il venait avec des textes de Max Jacob, dont il était l'ami, et il a correspondu pendant une vingtaine d'années, c'était pas pour nous lire du Max Jacob, c'était parce qu'il était profondément admiratif du travail de Jacob et il nous faisait lire des morceaux en disant écoutez, goûtez, machin. Et puis c'était pas Max Jacob qu'on lisait, c'était, et dans les textes qui m'ont marqué, enfin dans les auteurs qui m'ont marqué, c'est moins des auteurs que des textes. Si tu entends, quand tu vas me dire à la fin ton livre préféré, ou je serais capable de citer 3-4 livres. Mais dans le fond, c'est plus des textes que des grands auteurs. Même s'il y a des grands auteurs qui ont écrit plein de textes qui m'ont touché. C'est le rapport aux mots qui me touche.
Le professeur tel que tu en parles, je suis sûr que ça évoque dans la tête de la personne qui nous écoute un côté un petit peu Robin Williams, tu sais, le cercle des poètes disparus, tu vois. Il y a quelque chose.
C'est un vieux monsieur, il était plus jeune, il était plus âgé, mais.
Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre presque du fantasme, en fait. Tu vois, du professeur qu'on aurait tous aimé avoir, quoi.
Mais moi, c'est quelqu'un qui m'a structuré. C'est parti. On a tous, je pense, les uns et les autres, une, deux, trois personnes qui nous ont fait progresser dans la vie. Lui, c'est quelqu'un qui m'a ouvert des portes, ça c'est clair. C'est parti aussi de la dette dont on a sûrement reparlé tout à l'heure, alors, que tu as évoqué en introduction.
Tu as écrit et tu n'as pas édité, parce que finalement, ton premier texte édité, il arrive un peu plus tard.
Quand on s'est rencontrés à peu près.
Ouais, voilà.
J'avais l'impression, quand j'étais en pension avec dans cette école avec ce professeur de français, j'avais l'impression que c'était plutôt la poésie qui se livrait à moi, mais... Tu vas sourire, mais à l'époque, les poèmes, avec les quelques poètes en herbe qui sévissaient parmi les élèves, on essayait de battre des records sur les poèmes. On faisait des poèmes, alors on essayait de faire un poème avec 100 vers, un poème avec 200 vers, 300 vers. Depuis, j'ai mis plein de silence, du coup, c'est la gueule, tout ça. Mais bon, quelque part, j'ai l'impression que c'était ma forme à moi. J'ai l'impression que c'était ma façon de toucher les mots. Que c'était quand tu disais tout à l'heure qu'un mot racontait une histoire, c'était, je sais pas si c'était à ça que tu pensais, mais un truc que j'aime bien dire dans quand j'interviens devant des lycéens, c'est qu'un mot, ça relie. Un mot, c'est très compliqué. Un mot, ça paraît tout simple. Tu dis mère, tout simple, mère. Sauf qu'il y a un décalage déjà, quand tu dis le mot, il y a un décalage entre le mot qui est dit et le mot qui est reçu. C'est-à-dire que tu vas dire mère, tu as certains qui vont penser au bleu, au bateau, à la plage, aux esclaves, au voyage. Enfin, tu peux penser à plein de choses différentes, sans parler de ceux qui vont entendre maman et ceux qui vont entendre l'élu municipal. Donc ça veut dire que le travail du poète, enfin de l'écrivain, mais du poète en particulier, comme tu as une économie de mots, c'est qu'il faut vraiment que tu bordes bien toutes les choses pour être sûr que le type qui va la personne qui va t'entendre, le lecteur, puisse entendre le sens que toi tu as voulu y mettre. Mmh. Donc il faut faire très attention avec les mots, il faut faire attention aussi les mots, le mot qui suit, le mot et le mot qui précède. Si tu mets un mot trop fort ou trop technique ou trop ou un mot inconnu, tout à coup, pof, tu vas perdre l'attention du lecteur. Il a beau revenir en arrière sur du papier, c'est perdu. C'est pas pour toujours, mais en tout cas pour ce moment-là, et il va pas rentrer du tout dans la phase. Donc quelque part, il faut vraiment peser chaque mot. Et je pense que c'est ce que nous a appris ce professeur, nous faisant lire ces choses. Et quand je suis tombé sur la balade de la visite nocturne que tu as lue, ce texte, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est beau ce truc. C'est à la fois, ça raconte une histoire, mais ça raconte pas une histoire. Il y a des jeux de mots, il y a des jeux de musique, mais la musique, elle est là pour t'embarquer, pour donner, pour accentuer une émotion, des sens. Et je me dis, tiens, c'est ça, un jour j'aimerais être capable d'écrire d'éveiller une telle émotion, d'éveiller ou d'ouvrir, parce que moi j'ai l'impression que c'était des pans entiers qui étaient ouverts quand je recevais ces mots. Ça me cassait, ça m'ouvrait des lucarnes partout. Et je me dis, peut-être qu'un jour, j'aimerais être capable d'ouvrir des lucarnes comme ça chez les autres, d'être capable d'éveiller, puisqu'on n'a pas d'autres. En tout cas, pour un poète, quand tu racontes une histoire, c'est peut-être un peu différent. Mais moi, ce que j'aime bien dire, bah, toujours avec ces mêmes élèves, c'est que l'acte le plus personnel, c'est l'acte de lecture. Et bah, je trouve que c'est presque plus personnel que l'acte sexuel. Et quand tu aimes un texte, quand tu es touché par un texte, tu découvres quelque chose de toi-même que tu ne savais pas jusque-là.
Ouais.
Et je trouve que, alors, quelque part, c'est terrible, parce que la personne, le poète n'est pour rien, enfin, l'écrivain n'est pour rien, il est juste un passeur. Sauf que quelquefois, la personne qui le reçoit peut se dire, voilà, la personne a lu en moi, je suis transparent. Quelque part, je me dis, ouais, c'est ça que j'aimerais un jour faire, c'est pouvoir ouvrir des petites portes, peu importe qu'on sache que la personne puisse s'attribuer et dire que c'est moi. Moi, je sais que Max Jacob, enfin, pas tout Max Jacob, mais ce texte dont je parlais tout à l'heure, c'est l'élément déclencheur qui a fait que j'ai écrit de la poésie, puis ensuite, j'ai écrit... J'en parlais à personne, parce que quand t'es pas publié, tu dis pas « j'ai écrit de la poésie ».
Ouais.
Tu passes pour un... Enfin, c'est pas grotesque, mais on te dit oui et alors et on change de sujet.
Qu'est-ce qui t'a amené après à te dire à un moment, allez, vas-y, propose ces textes à l'édition?
Ah, mais attends, je l'ai envoyé. Ah,
tu l'avais déjà envoyé avant?
J'ai envoyé partout.
Ah, d'accord. Ça, je savais pas, ok.
Enfin, partout. C'était jamais la bonne endroit. Et puis, c'est toujours pareil, ce qui était terrible, c'est que j'avais mes poèmes. Un petit paquet où il y avait et puis j'envoyais tout à coup, je me disais, allez, j'envoie 20 trucs à droite et à gauche, tous les grands éditeurs de poésie, et puis j'avais soit aucune réponse, soit des récompenses négatives très polies, et je me dis, bon, ils ont mal compris, il faut que je les réorganise autrement. Donc je revoyais l'ordre des poèmes, je changeais le tri, etc. Et puis je sais plus qui m'a dit, peut-être Guy Vic, je ne sais plus, c'est peut-être lui, qui m'a dit, arrête de présenter de présenter ta poésie.
Ouais.
Mets un recueil et tu n'y touches plus. Et alors ensuite, tu peux toucher au sein du recueil. Et effectivement, ça a été une grande libération, parce que j'ai écrit des textes, j'ai écrit des recueils plutôt, qui étaient dans des classeurs très, très différenciés. Je les reprenais de temps en temps. C'est vrai que moi j'ai toujours été très lent dans l'écriture. Ça me va très bien le côté de mise en cave pendant 6 mois, 1 an. Puis je le reprenais, je tournais les bouteilles, je voyais un verre, je grattais 3 mots. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Sandrine pour Éclat d'encre, enfin chez d'Éclat d'encre, elle a aimé un texte, mais je lui ai montré les quatre autres manuscrits et elle m'a dit, on va les éditer tous les quatre.
D'accord.
Et donc, dès le premier jour, elle m'a dit, on va les prendre tous les quatre, mais un an d'intervalle. Donc là aussi, c'était un grand moment. J'y suis, en tout cas pour cela, très, très reconnaissant. parce que ça m'a aussi libéré de plein de choses. C'est-à-dire que tout à coup, je pouvais écrire autre chose. J'avais pu à me dire ces textes, il faut que je m'en occupe. Ils étaient dans le public, ils étaient publiés, donc ouais. J'avais pu à m'en occuper. Maintenant, ils vivaient leur vie tout seuls, donc c'est quelque part. C'est comme avec des enfants. Le jour où ils sont autonomes, tu les regardes, mais c'est toujours tes enfants, mais ils vivent leur vie, quoi. C'est eux qui grandissent, qui se construisent, qui font leurs rencontres. Et toi, t'es plus que spectateur. Et je ne suis plus que spectateur de ces poèmes qui ont été édités. Et je les regarde quelquefois avec beaucoup d'émotion. Ça me permet aussi de les défendre. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé aussi de me dire, je suis allé au bout, du bout du bout de ce que je pouvais faire. Et puis finalement, quelques années après, bon, les circonstances ont fait que j'ai pu rééditer certains. Et tout à coup, le fait de les reprendre et de me les remettre en feuille de papier devant moi, je me suis dit, mais non, là on peut encore gravir.
Mais parce que t'as vieilli aussi entre-temps, t'as eu d'autres expériences, et je pense que c'est... Moi, je le vois simplement par rapport à l'écriture théâtrale. Alors moi, c'est encore un petit peu différent, parce que ce sont déjà une pièce de théâtre et une œuvre inachevée, donc je passe mon temps à la retravailler aussi sur le plateau, etc., etc. Quand un texte est amené à ressortir, et ben évidemment, il revient dans mes mains, et puis je vois ce qui a fonctionné auprès du public, et ce qui n'a pas fonctionné. Donc je le travaille en permanence. Mais c'est vrai que c'est étonnant un poème de te dire tiens, qu'est-ce qui fait que d'un coup je le reprends en me disant est-ce que j'ai vieilli ou qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Je pense qu'en vieillissant, enfin, oui, si, t'as raison, il y a quelque part un vieillissement, mais c'est peut-être pas la même. C'est que plus je vieillis, moins je suis dans le compromis. J'ai plus envie de transiger, j'ai plus envie de. Et je me rends compte que j'ai laissé passer sur certains poèmes de jeunesse, entre guillemets, ou que j'ai laissé passer des facilités que j'ai plus envie de laisser passer. Alors, une fois que c'est publié, bah, tu peux plus y toucher, tant pis, mais si t'as la possibilité de le retoucher. Tu dis, putain, c'est génial, je peux. C'est une chance qui m'est donnée de pouvoir. Et tu vois, le premier livre, ou deuxième livre publié, ça dépend, parce qu'ils sont sortis à quelques jours près, c'était Le Petit Homme qui brûlait. C'était un roman épistolaire. Et à l'époque, je me disais, j'écrivais déjà plein de poèmes. J'avais déjà mes quatre recueils qui étaient en plus quasiment programmés chez Sandrine. Et je me suis dit, mais le souffle d'un écrivain, c'est le roman. Il faut y aller dans le roman, il faut faire des phrases, il faut... Et puis, bon, à l'époque, j'étais très content. Puis j'ai trouvé un éditeur, une éditrice qui a accepté de le publier. Et puis, c'est très bien vendu. Enfin, en tout cas, relativement, mais enfin, pas mal quand même. Et puis, la maison d'édition a disparu, a fait faillite. Le roman, le livre a disparu il le trouve toujours sur Amazon, visiblement.
À 450 000 dollars.
et puis, il y a 4-5 ans, je ne sais plus qui m'a dit, mais tiens, et si quelqu'un te proposait de le republier? Et je me suis dit non. Mais je savais non. Mmh. Autant d'autres poésies, je m'étais dit oui, peut-être, pourquoi pas, etc. Mais là, je savais non. Et je me suis dit un jour, tiens, mais ça va me faire un exercice comme les musiciens font leurs exercices, leur gamme. Je me suis dit, tiens, si je devais le réécrire, comment je le réécrirais aujourd'hui? Parce que je voulais pas tout balancer. Mais je n'aimais pas du tout l'écriture que j'avais, le mode que j'avais choisi à l'époque. Et je l'ai réécrit complètement, alors avec beaucoup plus de silence, beaucoup moins de mots. Mais je suis sûr que, pour moi, j'y vois la même intensité. Je pense qu'il est bien mieux aujourd'hui dans le recueil de poésie Forcé d'écrire aimé qu'à l'époque, le petit homme qui brûlait. Il n'y a juste pas photo. Mais pourtant, c'est quasiment les mêmes mots. Il y a juste... si tu l'as vu, mais il y a beaucoup d'écrémages, j'ai organisé deux, trois choses, j'ai remis des silences, j'ai revu des rythmes, j'ai modifié le rythme des mots, l'assemblage des mots sur les pages. Ça illustre exactement, tu vois, ce qu'on parlait de maturité, parce que tu suggérais ce que tu avais dit avec l'histoire de maturité. C'est tout à coup, je me suis dit, je ne vais pas transiger, il y avait des facilités. Alors, je sais qu'à l'époque, je voulais faire du remplissage, ça ne s'appelait pas comme ça, je ne qualifiais pas comme ça, mais je voulais faire des liaisons pour aller d'une lettre à l'autre, ou d'une histoire, ou d'un moment à un autre. Et là, je me dis, je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, avec trois mots, deux silences et un saut de ligne, on peut avoir exactement le même effet. Donc, ce n'est pas la peine de... Et voilà, donc je ne sais pas écrire des romans et je suis...
Pourquoi donc, un jour je t'avais demandé pourquoi tu écris, tu m'avais dit une dette. Alors je ne sais pas si tu m'as dit c'est pour rembourser une dette, mais tu avais dit le mot, il y a une dette là-dedans, pourquoi ?
C'était, alors il y a deux façons, deux angles, mais c'était pour dire merci et c'était une sorte de dette à tous ces écrivains, tous ces gens qui ont ouvert, ce que tu disais tout à l'heure sur Max Jacob. Il y a eu d'autres textes qui ont ouvert des brèches monumentales en moi. Et je me dis, tous ces gens-là, forcément, ils ne le savent pas, parce que la plupart étaient morts quand je lisais leurs textes. Et même quand ils étaient vivants, je ne prenais pas la peine de leur écrire pour leur dire, j'ai lu tel texte, ça m'a beaucoup touché. Mais je me dis, bon, maintenant, c'est mon tour. J'ai cet outil entre les mains, j'ai la chance d'avoir... Alors, je ne veux pas dire un talent, mais une plume, comme ça, ça ne qualifie pas, et des gens qui me font confiance parce qu'ils me défendent et qui choisissent d'éditer mes textes. Et je me dis, si je peux un jour être sûr, et puis j'ai déjà des échos, mais que ça a ouvert des brèches ici et là, et que ça a permis à des personnes... de façon inattendue, de grandir, de trouver des solutions, enfin, je ne suis pas un médicament, mais...
Mais tu es reconnu aussi aujourd'hui en tant que poète, tu dis j'ai ma plume, mais tu as eu, je me souviens, il y a eu quelques années, tu avais eu un prix, je crois que c'est du côté de Clermont-Ferrand, si ce n'est pas ça.
Le prix Amélie Murat, là, pour les arbres penchés.
Voilà, il y a donc tous ces textes qui sont publiés, tu as même été aux États-Unis lire tes textes, les textes étaient aussi traduits en anglais, c'est ça ?
Oui, c'est une belle expérience aussi. Ça. Les États-Unis, c'est assez drôle, tu parlais. C'est vrai que c'était. Alors, il y a eu deux festivals de poésie différents, et il y a eu un problème. Donc, pour les deux festivals, avec des contextes et des histoires différentes, l'idée c'était d'inviter des poètes étrangers pour ces universités. C'était d'inviter des poètes étrangers, alors aussi différents que chinois, français, allemand, italien, espagnol, etc. Et de préparer la traduction des textes avec les élèves avant le festival. Et donc, il y avait tout un échange. Et puis moi, pendant le festival, chaque poète disait ses poèmes dans sa langue. Et il y avait les traductions des élèves qui étaient projetées pour le public, pour... Et ça aussi, ça m'a fait énormément progresser, parce que c'était, c'est un bonheur de toi. Je sais que tu as commencé à travailler avec sur la traduction de certains
du clan,
textes. Ce que j'ai découvert, c'est que tout à coup, quand le traducteur, le traducteur mettait le doigt tout de suite sur les petites faiblesses et les petites tricheries.
Ouais, tout à fait.
Parce que toi, quand tu es là, tu fais un petit artifice, une petite pirouette, tu envoies un petit feu, t'envoies un peu de couleur, un peu d'esbrouf, et puis ça va passer. Et ça passe quelquefois, mais le traducteur, lui, il met le doigt et lui commence. Et tu peux pas dire. Quelquefois, c'est d'autres discussions qui sont encore plus intéressantes parce qu'il y a double ou triple sens. Parce qu'en français, j'ai voulu jouer sur ces trois ou quatre sens. Mais le traducteur ne peut pas toujours. Donc, je lui dis, c'est toi, c'est ta traduction. Donc, c'est à toi de faire un choix.
Et qui se l'approprie.
Choisir, voilà, c'est à toi de dire, voilà. Et puis, tu fais ce choix. Et ensuite, il faut que tu sois cohérent dans la suite. Il faut, dans les choix que tu vas faire après. Mais quand il met le doigt sur un truc, sur un petit morceau de plâtre, soit on lui dit, c'était du plâtre, soit on fait des pirouettes. Mais bon, dans ce cas-là... Mais ça, j'ai trouvé ça extrêmement... Ça m'a fait énormément progresser, pas sur les mots, pas sur les poèmes qui étaient en cours de traduction, là pour le coup ils étaient déjà édités, mais pour après je me suis dit attention, type qui te regarde, il met le doigt tout de suite, tout de suite. Donc comme on sait où sont les défauts, autant les virer tout de suite, parce qu'on est le principal juge de nos,
de nos nous on sait très bien.
Ouais, ouais, tout à fait.
C'est pas l'éditeur. L'éditeur, c'est un autre boulot, son boulot d'édition.
C'est un autre boulot, ouais, ouais. Il y a un petit personnage dans le Lloydcast, c'est la petite souris. Qu'est-ce que verrait cette petite souris si elle te voyait travailler tes poèmes ici à Paris ou à La Roche? Qu'est-ce qu'elle verrait? Est-ce que tu as des rituels d'écriture, etc.?
Oui, j'ai des rituels. Mais j'ai des. D'abord, elle mettrait des boules quiètes. Mais ça, c'est une fois que j'ai commencé à travailler les textes. Mais avant, j'aime bien faire table rase. J'aime bien tout ranger. Je suis un maniaque. Je me dis, pour pouvoir créer, il faut que je ne sois pas dérangé par quelque chose autour.
D'accord.
Donc, je range mes papiers physiquement et virtuellement. Enfin, ensuite, je travaille, je commence toujours avec du papier, du crayon à papier. Et d'ailleurs, même quand je dédicace mes livres, quelquefois, il y a des gens qui me disent, vous ne faites pas au stylo. Non, je suis toujours... Je sais pas pourquoi, j'ai un côté, j'aime bien d'abord j'aime bien la mine de plomb, j'aime bien pouvoir reprendre, corriger dessus, gommer, regommer, je le fais pas toujours, mais je me dis, j'aime bien avoir la possibilité dans ma tête de pouvoir le faire. Pareil, je commence sur des feuilles à 4, et souvent quand je commence, alors un peu moins quand les textes sont avancés, mais quand je commence, je parle dans le format à l'italienne, et j'écris sur des demi-pages pour pouvoir la possibilité de rajouter encore des trucs et de reprendre, de mieux voir. Enfin, j'ai l'impression de... Donc, il y a le crayon et puis... Non, l'ordinateur, c'est bien après. C'est-à-dire que c'est quand les textes commencent à avoir une certaine tenue que j'ai envie de les voir sur une feuille de papier, une feuille A4 pour voir comment les mots s'inscrivent dans l'espace. Parce que, bon, parler des silences pour l'oreille... Mais je pense que et c'est important, ça donne le rythme, la musicalité. Mais pour lire un texte, il faut d'abord lire sur la page. Et pour lire sur la page, il faut donner un rythme aux yeux. Et le rythme aux yeux, c'est pas le même que le rythme de l'oreille. Quelquefois, j'hésite, mais je fais 50 essais sur le truc. Je mets un saut de ligne, un demi, un quart, je fais un petit retrait, pas de retrait, j'essaye.
Ouais.
J'arrive pas à trouver un peu comme les peintres, tu sais, avec les rayons X aujourd'hui. On s'aperçoit que des peintres...
On fait plusieurs essais.
On fait plusieurs essais avec des bras d'autres personnages, des bras qui bougeaient, qui se levaient, qui étaient... Pour arriver à un seul personnage, à un choix de personnage et un choix de mouvement... Mais pareil, j'essaye plein de choses pour essayer de voir ce qui pourrait... Mais c'est pas un choix graphique, c'est un choix... C'est vraiment pour rythmer la lecture. C'est juste... ça peut donner l'impression de graphisme. Mais...
Et justement, la petite souris, elle me dit dans l'oreille, moi, qu'elle a mis des boules quies, mais elle comprend pas pourquoi elle a mis des boules quies. Moi, je sais,
parce
mais...
Que je vais demander.
Non, mais pourquoi? Parce que tu parles.
Parce que je lis à haute voix. J'ai un peu comme... je crois que c'était Flaubert qui avait son gueuloir... j'ai besoin, je me bataille à haute voix avec les mots, donc je suis souvent seul quand je commence, en tout cas le début du travail. Après, j'arrive à les gueuler dans ma tête, si je puis dire. Mais mais quand je les assemble, quand je suis au début, quand je fais des essais ou même en fin de truc, quelquefois j'y arrive pas et je gueule vraiment fort. J'ai besoin d'entendre les mots forts. Alors, parce qu'il y a la...
Alors j'en suis témoin. J'étais témoin et c'est pardon, je te coupe, mais enfin c'est même pas une anecdote, mais je me souviens d'avoir été avec toi à un moment où tu travaillais sur je ne sais quel texte et j'avais l'impression qu'il y avait un mec qui se battait avec toi. Faut que tu te battais avec un gars dans la roche. Quand je suis descendu, je me dis qui c'est qui est en train de gagner et tu m'as dit bah c'est lui ce con là, ce mot je le comprends pas, il me fait chier, pourquoi il me résiste. Et je crois que 2-3 jours plus tard t'avais trouvé la solution, mais c'est vrai que j'ai l'impression que t'as un rapport extrêmement physique avec ce que tu écris, c'est fou.
Bah, c'est la sensualité dont tu parles.
Ouais.
C'est vraiment un corps à corps, hein. J'ai pas...
Ouais. Enfin, c'est hardcore quand même.
C'est tactile, non. Ouais.
Tu gueules, on sent qu'il y a de l'énergie, quoi.
Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y a il y a le son que j'entends dans la tête, il y a le son que je gueule, parce que j'ai besoin d'entendre aussi... Mais quand je lis mes textes, je suis pas toujours le meilleur lecteur. Alors, paraît-il pas si mauvais que ça, mais je suis pas le meilleur lecteur de mes textes. Et quelquefois, quand je m'entends les lire, je me dis, mais attends, C'est pas comme ça que je les ai entendus, je les ai écrits. Mais bon, j'aime bien, c'est partie de mes batailles. Mais...
Ouais. Un petit mot sur, sur La Roche, qui est une maison qui donne sur le bout de La Hague, et puis c'est cette région aussi de La Hague, après Cherbourg. Pour toi, La Roche, c'est une racine profonde.
Oui, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais j'ai l'impression que c'est le lieu qui m'a habité plus que... Enfin, avant que je commence à l'habiter. Je suis allé là-bas pour réviser mon bac, donc c'est dire que c'est vieux, même si c'était... On a 27 ans.
Oui, oui, j'avais oublié de dire que tu avais 27 ans, ouais, comme tous mes invités, effectivement. Toi, c'est 27 ans évolu, c'est pour ça.
Depuis plusieurs fois. Ouais. Et j'y suis toujours retourné. Et comme une attraction, même à un moment donné, pendant 4-5 ans, on a vécu à Strasbourg, donc c'était loin. Même avec les enfants, on se disait, mais quand est-ce qu'on y retourne? On a besoin d'y retourner. Alors, c'est vrai que là, c'est une maison qui est dans un lieu idyllique. En plus, une grande baie vitrée qui donne sur l'eau, t'as l'impression d'être dans l'eau, mais c'est pas l'eau agressive. Il y a une île en face, il y a un phare, il y a un petit port, donc avec de la vie.
Il y a un sémaphore pas loin aussi.
Il y a le sémaphore, mais la maison d'à côté, il voit que la mer. Et quelque part, je me dis, oh là, c'est angoissant, c'est flippant.
Ouais.
Là, c'est pas, tu vois la vie, tu vois le. J'aime bien l'idée du phare aussi, le concept du phare. D'abord, parce que ça éclaire. Bah, bon, maintenant, ils ont arrêté les cornes de brume. J'adorais quand les jours de brouillard, quand la corne de brume. On sait que les gens qui n'avaient pas trop l'habitude.
Sautaient dans le lit, ouais.
Mais moi, je dormais comme un bébé quand il y a une corne de brume. C'était un truc, j'adorais ça. Mais j'aime bien l'idée du phare, le type qui te montre. Et j'aime, toi, ça fait le lien, tiens, avec peut-être le rôle du poète, de l'écrivain par rapport à la dette tout à l'heure. Le phare, il donne une leçon à personne, il éclaire. Il éclaire juste pour dire il y a un danger, mais toi tu fais ce que tu veux. Il dit pas au bateau, cassez-vous, on met une barrière. Il donne juste une information et toi tu en fais juste ce que tu veux. Mais ouais. Il a délivré son information. Et j'aime bien ça, j'aime bien cette relation. Je peux en parler pendant des heures.
Oui, de La Roche, moi, l'un des plus grands moments que j'ai vécu là-bas avec toi, justement, c'est là quand tu refaisais ton toit et on s'est retrouvés tous les deux sur le haut du toit, alors qu'il était en train d'être refait. Enfin, il y avait quelques installations, des échelles pour pouvoir y monter. Et on a eu cette vision, toi et moi, que finalement, personne d'autre chez toi n'a pu avoir, parce qu'on était encore plus en hauteur.
Il y avait un angle encore différent.
Il y avait encore un angle différent. Je me souviens que j'avais pris une photo qui était super.
Ce que j'aime aussi dans cette région, c'est qu'il y a... C'est une région... D'abord, il y a une lumière extraordinaire. C'est une région de force. T'as un cap, donc il y a des courants... C'est aussi qu'on voit devant la maison. Mais tu as des courants extrêmement puissants. Tu as tes falaises de granit qui sont là depuis 3000 ans. T'as les, et j'aime cette résistance, cette mer aussi. Alors c'est un élément qui me fait peur. Je ne suis pas sûr que je serais un grand marin, même si j'ai fait de la voile. Je ne suis pas sûr que j'aimerais traverser l'Atlantique ou quelque chose comme ça. Mais j'aime cette puissance, cette obstination, tous ces... Les vagues qui se déroulent, tu sais qu'elle va se dérouler, bien sûr, elle n'a pas de pensée, mais elle fait son boulot et elle y va au bout, elle y va quand même. Et il y a c'est une notion de verticalité. Il y a les deux plans. Il y a l'horizontalité de l'horizon, parce que c'est vrai qu'à La Roche, ce qui est extraordinaire par rapport au paysage de montagne, c'est que t'as à peu près sur 180 ou même voire un peu plus, t'as l'horizon devant toi. Donc ça. T'as juste le regard qui part à l'infini. Et d'ailleurs, quand j'écris, je regarde pas la mer. C'est ça, Guy Vic disait la même chose.
Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que ton bureau, il est pas face à la mer. Parce que sinon, tu t'écrirais pas du coup.
C'est impossible. Ouais. C'est face au feu, donc j'écris pas. Ouais. Il y a pas les jours où il y a le feu.
Ouais, ouais.
Mais pareil, Petra, c'est pareil. C'était un lieu avec des verticalités. C'était, parce que malgré tout, ce que j'aime bien, enfin, pas malgré tout, ou en plus, j'aime bien cette notion de verticalité, d'essayer de donner un sens aux choses, parce qu'il y a les cinq sens, mais il y a aussi le sens, je vais pas parler de spiritualité, mais un petit peu quand même, c'est donner un sens à la vie, et je retrouve ça à La Roche. Mmh. Je retrouve un peu ça et dans beaucoup de mes textes, bien évidemment. Mais...
Qu'est-ce que tu ambitionnes aujourd'hui en tant que poète après avoir sorti une dizaine d'ouvrages, une douzaine d'ouvrages? Est-ce qu'il y a une maison d'édition, par exemple, dans laquelle tu aimerais être édité? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu vises un but d'un coup un peu ultime à un moment comme moi, par exemple, en tant qu'auteur de théâtre, de me dire, tiens, bon, bah, je vais être joué au Rond-Point ou à la Comédie Française. Bon, ça, de mon vivant, ça va être compliqué, a priori. Et tant que je ferai des comédies, ça va être dur. Mais est-ce que toi, par exemple, tu te sens d'avoir... Est-ce que tu as un projet comme ça, hyper grand, qui te motiverait au quotidien?
Comme le Nobel?
Alors, c'est possible, c'est vrai.
Honnêtement, non. Je peux pas dire. En tout cas, pas en termes de maison d'édition. Je suis ravi d'être chez La Vraie Parole. Et tant que ça se passera bien, je suis très content d'être là-bas. Mmh. Ça me pose pas vraiment de problème. Non, ce qui je peux avoir une certaine ambition, c'est de peut-être... de glaner des prix, pas tellement pour... même si pour mon ego ça me ferait du bien, parce que c'est quand même une reconnaissance de
père,
etc. Mais je me dis pour la visibilité, pour la maison d'édition. En fait, à chaque fois que je fais une lecture, la semaine dernière, il y a quelques jours, j'étais à Cherbourg pour faire une lecture. Alors, j'étais content de lire mes textes, de les défendre.
Dans une grande librairie.
Dans la grande librairie de Cherbourg, la Chériste. J'étais content de défendre mes textes, même si ça m'inquiétait, parce que j'ai quand même du mal à défendre, à lire. Mais quelque part, je me disais, c'est bien de faire ça pour l'éditeur, parce que, et c'est pas juste de l'altruisme, mais je me dis, ils ont pris un risque, c'est eux qui ont pris le risque éditorial, qui ont choisi d'éditer, etc. Donc, la moindre des choses, c'est que je renvoie l'ascenseur, que je leur donne de la visibilité, que je sois là, bien évidemment, aux dédicaces, quand il y a des dédicaces. Mais si en plus, il y avait un prix, quelque chose qui donnait un peu de visibilité, ben je me dis, ce serait ma façon à moi de remercier l'éditeur qui a bien voulu me défendre.
À la fin de cet épisode, il y a toute une série de questions que je pose à chaque fois à mon invité et qui sont toujours les mêmes questions. Je suppose que tu les as déjà un petit peu entendues et je te connais, je suis persuadé que tu as dû y penser. Alors la première de ces questions, c'est si tu gagnes au loto, quelle est ta première réaction?
J'y ai pensé, alors je ne sais pas trop, mais je me suis dit que ce serait ce qui me ferait plaisir, c'est peut-être d'acheter une maison ou d'autres maisons à côté de La Roche pour pouvoir... pouvoir avoir mes amis, parce que finalement j'adore là-bas aussi, parce que j'ai des relations avec les gens du coin, j'ai des amis là-bas. Et
tu veux faire venir tes amis d'ici là-bas?
Ouais. Non, mais quelque part, oui, j'aimerais bien ça. Non, ça serait un truc, oui.
Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson qui a changé ta vie?
Oui, on en a parlé tout à l'heure, le livre. Voilà. On peut toujours parler des musiques que j'écoutais bien avant, Cure, etc. Une autre génération, et Pink Floyd et autres. Mais je pense que le texte de Max Jacob, oui, la balade de la visite nocturne, c'était quelque chose qui était clairement déterminant, même si d'autres livres, Les souris des hommes, Le petit prince, L'idiot, bref.
Il y en a un que j'ai lu là-dedans, c'est bien. Si tu n'écrivais pas, justement, tu ferais quoi?
Ben d'abord, j'ai un autre métier que j'aime beaucoup, mais si je devais encore changer complètement, maintenant, avec du recul, comme tu te dis, oh, tiens, si je devais refaire complètement la vie, je pense que j'aurais aimé être kiné. Le côté pouvoir réparer et donner, soulager rapidement quelqu'un.
Quel est ton plus bel échec?
Alors, il y a eu pas mal, mais on va pas passer du côté plutôt professionnel. Je pense que c'était d'avoir mal anticipé ma période de chômage, mais c'est aussi le plus bel échec parce que je pense que j'ai grandi énormément. Ça a été professionnellement la période qui m'a le fait plus évoluer, parce que tout à coup j'ai appris à me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus faire, qu'est-ce que je sais faire. J'ai appris à me mettre des mots. Et c'est en plus, en termes de poésie, par rapport au poète que je commençais à être, ça a été la rencontre avec Guivi. Grâce, si j'avais pas été au chômage pendant tout ce temps-là, j'aurais pas passé tout ce temps-là avec avec Guivi. Et je me dis, c'est.
Mais c'est un échec magnifique.
C'est un échec magnifique.
Quel est, bon, alors je vois bien ce que tu vas répondre. Quel est ton endroit préféré au monde?
Une petite maison face à la mer, avec un phare, une île. Non, mais elle est belle, cette maison.
Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai la chance, moi. J'ai vraiment la chance de la connaître. Donc,
mais elle est belle aussi par les gens qui sont autour. Bien sûr, il y a tout un... Je trouve qu'un lieu est beau que parce que les liens que tu arrives à y tisser.
Et les gens qui ne connaissent pas La Hague, il y avait un superbe documentaire qui avait été fait à l'époque qui s'appelle Paul dans sa vie, sur un agriculteur qui habite à La Roche, enfin à Auderville, plus exactement, Paul Bedel. Et ce documentaire a quoi, 10 ans, à peine 10 ans, 8, 9 ans, bon bref.
Peut-être un peu plus.
Ouais, c'est un documentaire qui avait été fait par France 3, pour France 3, et qui a cartonné, qui s'est retrouvé au cinéma. Et Paul Bedel, lui, s'est retrouvé ensuite à avoir des distinctions au ministère de l'Agriculture. Enfin, c'est une histoire assez incroyable.
Il a fait partie des invités du 14 juillet.
C'est totalement fou. Et donc, c'est vrai que les gens qui peuvent voir ce documentaire, Paul dans sa vie,
c'est une merveille.
C'est une merveille. Et moi, je me rappelle très bien quand on lui dit, alors, c'est quoi le mauvais temps? Et c'est quand il dit, le mauvais temps, c'est le temps qui dure trop longtemps. Ouais. Je me suis dit, mais lui, il a inventé toute la poésie du monde, ce gars-là. Alors que, tu vois, t'as l'impression que c'est pas... Il fait tout petit malingre et tout, il est assez extraordinaire.
Il n'est pas bien en pointe, bon vieux. Il a 88 ans aujourd'hui.
C'est quand même un... Voilà, et c'est vraiment, j'encourage les personnes à regarder ça.
Hier, enfin avant-hier.
Ouais. Et en anglais, donc, il y a, en américain encore, bien évidemment, il y a le motto qui est une espèce de devise, en gros, on va dire. Est-ce que tu en as un, toi? Une devise?
J'ai jamais pensé à une devise, mais il y a toujours un truc qui m'a suivi et que j'ai essayé de replacer d'ailleurs dans le, dans le texte qui verra peut-être un jour, un jour. C'est d'essayer de ne pas vivre où je n'aimerais pas mourir. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu quand j'avais 18 ans et ça m'est toujours resté.
Quel est ton mot préféré?
Alors, il y en a quelques-uns, mais peut-être choisir. Choisir. J'ai pas pensé, je pensais à plein d'autres et... J'allais dire d'autres et c'est celui-là qui est venu.
Choisir, c'est renoncer aussi. Hein.
Ah ben choisir, c'est dire non.
Alors, on arrive à la fin. Quelle est ton actualité? Là, dans les semaines à venir, il va y avoir le marché de la poésie bientôt, début juin.
C'est l'actualité la plus immédiate, effectivement. Le marché de la poésie qui est autour du 10 juin, 7, 8, 9, 10 juin.
Saint-Sulpice.
Sa place Saint-Sulpice à Paris. Et je vais certainement être en dédicace le samedi et le dimanche, je crois, de 3 à 4, sur le stand de l'Arbre à Parole. Parce que, pour une fois, je vais avoir deux livres à défendre. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont sorti Force et d'écrire Aimé. Et très vite, il y a Écalgrin qui est sorti. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup en parler. Mais donc, un petit recueil qui est sorti à la fin de l'année, que j'avais écrit avec un ami peintre, quelqu'un de La Hague, qui avait un projet d'exposition et qui m'avait demandé d'écrire quelques lignes pour son catalogue. Et puis, de lignes, c'est devenu des poèmes, c'est devenu un recueil. Et quand le recueil s'est mis en place, je lui ai demandé quelques dessins que j'avais vus dans l'atelier, quelques blocs de dessins. Je lui ai dit, j'aimerais utiliser ces dessins, comme ça gênera pas le catalogue quand tu auras un catalogue de ton exposition, tu mettras de la couleur. Et je suis ravi qu'il m'ait donné ces dessins, et je suis ravi du recueil. Il l'éditait tout de suite parce que Pierre Juel, le peintre, avait une première exposition en décembre, il y en avait une en février, il y avait une lecture à Cherbourg le week-end dernier, et il a a priori une grande exposition durant tout l'été 2019 à l'abbaye du Vœu de Cherbourg. Donc ça, c'est ça l'objectif. Peut-être qu'il y aura d'autres choses entre-temps, mais maintenant, je suis ravi, parce que le bouquin, ça devait être un texte de catalogue, comme tu l'avais fait pour Jean-Philippe, que tu connais aussi. Mais le catalogue, ça n'existe que le temps du catalogue, de l'exposition. Alors que là, je me dis, c'est un vrai recueil qui est pérenne, et voilà, qui rentre, qui s'inscrit. Et puis j'ai pu écrire un truc, alors c'est pas la première fois que j'écrivais sur La Hague, mais je me suis dit voilà, j'ai écrit en plus un truc sur ce pays qui me touche, dans lequel J'ai des racines, j'ai aucune attache normande, ni de près ni de loin, mais voilà, c'est mes racines aujourd'hui et je suis content d'avoir écrit ça.
Si on veut acheter tes livres, on peut les commander sur ton site. T'as un site internet aussi.
Alors sur mon site, on peut pas commander en direct.
Il y a un lien.
Il y a des liens. Tu peux les trouver sur Amazon. Tu peux, en tout cas, sur le site, ça permet de voir, de faire une idée des textes et des extraits. Donc ça peut donner envie.
Et puis tu le mets à jour régulièrement selon ton actualité aussi.
Et sinon, l'Arbre à Parole, qui est l'éditeur principal, mais Tertium Édition pour Petra existe aussi. Donc il y a toutes les coordonnées sur mon site. Et l'Arbre à Parole, il y a toutes les coordonnées sur mon site, mais ils sont distribués en France par la librairie Wallonie-Bruxelles, qui est juste à côté de Beaubourg.
Bah écoute, merci à toi, Aymeric, d'avoir été cet invité pour ce 10e épisode des Remarquables. Je sais que pour toi, c'est pas toujours c'est pas l'exercice que tu préfères, mais j'espère que ça n'a pas été trop dur.
Non, c'est très bien.
Bah merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Quant à toi, la compagnie, n'hésite pas à commenter cet épisode là où tu l'auras entendu, sur Apple Podcasts, etc. Tu peux aussi laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain, pour le coup, pour une résonance qui fera le bilan de ces 10 premiers épisodes et de l'avenir du podcast. D'ici là, porte-toi bien. Salut.